Sen çek. Tuki. That's it, man.
Wait.
That's it, man.
Divergentes et divergents, provoscopiennes et provoscopiens, écoutez le bonjour du loup et du renard. L'an 2012 promet de belles surprises politico-électorales, c'est moi qui vous le dis. Sans réfléchir, vous pensez que durant le printemps se jouera l'avenir de la France en vertu du choix que les citoyens français feront. Vous êtes persuadé que le président de la République ainsi que l'Assemblée nationale sont les clés de voûte de nos institutions. Eh ben non, détrompez-vous. La clé du gouvernement des affaires publiques en France se trouve planquée au-delà de Bruxelles, du côté de Berlin. Vous n'aurez pas été sans remarquer depuis quelques lustres que l'essentiel des décisions qui engagent le pays sont prises en collaboration, oh que le mot il est porteur de mémoire, collaboration avec nos amis allemands représentés par la chancelière Angela Merkel. Si certains d'entre vous regardent le grand journal de Canal+, et donc les guignols, il ne vous aura pas échappé que les auteurs parlent dorénavant de Merkozy en lieu et place de Tom Pouce et de son égérie Angela. Vous aurez aussi constaté que la position allemande prévaut dans l'essentiel des cas et que le petit Nicolas est souvent embarrassé pour expliquer le retournement de veste français. Alors, tout ça pour vous dire que l'avenir de la France ne se situe pas à Paris, ni dans les urnes, mais bien à Berlin. Et comme de plus en plus de Français s'agacent de cette Europe qui leur échappe, il est nécessaire de bien comprendre que le changement ne peut venir que depuis l'autre côté du Rhin. Ce qui signifie que l'élection clé qui devrait nous passionner est celle des législatives à venir en Allemagne, et non la présidentielle ou les législatives françaises. Il doit plus nous importer de savoir comment faire pour se débarrasser de la chancelière que de gloser sur l'opportunité de voter pour Coussi-Coussa ou pour Tom Pouce, en jouant sur l'aile gauche ou sur l'aile droite, selon. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité réaliser une émission spéciale en invitant une bande de belettes germaniques pour qu'elles nous parlent de ceux que Françoise Giroud appelait les inconvénients de part et d'autre, non pas du rideau de fer, mais du Rhin, car les Allemands savent mieux que nous comment faire pour réorienter la politique allemande à notre goût. Nous voilà donc pour 90 minutes de divergence franco-allemande. Vous écoutez Provoscopie. À la question anodine posée dans les ruelles montpelliéraines, à savoir qui gouverne, Sarkozy ou Merkel, les réponses sont plutôt sans appel. Une belle moitié de citoyens électeurs s'inquiètent des positions intransigeantes de la chancelière et de la mollesse des réactions élyséennes. Certes, cette moitié-là est volontiers eurosceptique, quand elle n'est pas carrément europhobe. Enfin, tout de même, ça fait du monde. Des électeurs potentiels pour la marine. Vous avez peut-être vu ce sondage de la semaine dernière qui dit, selon Libération, que 30% des Français seraient susceptibles de voter pour elle en avril. Quant à l'autre moitié des citoyens électeurs, ils sont encore persuadés que leur champion peut peser dans la balance, comme si l'un ou l'autre pouvait faire fléchir la chancelière sur la politique monétaire européenne. Enfin bref, en compagnie de Hans Demes, le nouveau grand patron de la maison de Heidelberg à Montpellier, mais aussi avec Kurt Brenner, notre belette autrichienne, et enfin avec Sylvia Lamati, spécialiste du couple franco-allemand, entre autres, nous allons dire les choses comme elles doivent être dites. Et vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été prévenu.
Monsieur le Président,
on a dit dans cette émission qu'on faisait pas de langue de bois. Alors,
je suis le bruit et la fureur, le tumulte et le fracas.
J'ai laissé l'appétit de Robert Navarro pour le.
De ce point de vue-là, j'ai manqué mon rendez-vous avec les Français.
Et c'est parti. Comme il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers, changeons quelque peu nos vieilles habitudes provoscopiennes. Et plutôt que de parler de présent, de passé et d'avenir, je vous invite à un petit voyage géopolitique. Tout d'abord, parlons de France. Puis, nous partirons découvrir l'Allemagne, avant d'oser aborder les rives européennes. Le tout avec des invités qui ont retiré leurs bottes avant d'entrer dans le studio. Non, je plaisante. Je veux parler de citoyens allemands qui ont une particularité intéressante puisqu'ils ont choisi de quitter leur Vaterland, leur patrie, pour migrer vers la terre que l'on se doit de plébisciter tous les jours, comme nous y invitait Ernest Renan à la fin du 19e siècle. Enfin, bref, commençons donc par parler de la France, s'il vous plaît. Et moi, j'ai une question pour tous les trois. Pourquoi avoir choisi de vivre en France et à Montpellier particulièrement? C'est pas beau l'Allemagne?
Oui, si vous voulez que je commence.
Bonjour à vous trois.
Bonjour à vous trois, tout d'abord.
Bonjour pour ces mots un peu provocatifs, effectivement. On va voir pendant une heure et demie ce qui va en résoudre, cette vision un peu basique de l'Europe.
Non, mais c'est pas bon
en ce qui concerne. En ce qui concerne donc la question pourquoi on est en France. Écoutez, moi je fais partie, j'ai 57 ans, je fais partie d'une génération, de toute une génération, qui a grandi avec l'admiration pour la France, avec une certaine admiration pour sa révolution, pour son histoire, mais aussi pour son mai 68, qui a certes eu lieu aussi en Allemagne, mais enfin qui a été beaucoup plus fort, beaucoup plus incendiaire en France, pour ses philosophes, pour son existentialisme, pour son Sartre, son Camus, et pour toutes ces penseurs qui nous ont fait aimer ce pays. Et
heureusement que Voltaire était allé voir Frédéric II de Prusse pour vous civiliser un petit peu. Quoi.
Tout à fait, grâce à Voltaire. Et à cette époque-là, il faut pas oublier qu'on parle français en Allemagne.
C'est vrai. Courte, qu'est-ce que tu fous en France depuis si longtemps?
Oui, j'étais attiré par l'Occitanie, par Montpellier comme ville au bord de la mer.
C'était ton côté méridional autrichien, non?
On peut le dire, c'est-à-dire, bon, c'était tout de même une fascination du midi. Mais j'ai vécu aussi une année à Paris, comme Hans a dit, pour nous, génération d'après-guerre, on est venu aussi avec la volonté de réconcilier, de faire quelque chose pour que les deux pays ne se tapent plus dessus. Alors je crois que cette volonté d'une Europe de paix avec une France et une Allemagne qui se comprennent.
Alors ça va être l'objet, en gros, de toute l'émission, ça. Ouais. Sylvia, vous êtes originaire d'où ça?
Je viens de près de Hambourg, tout au nord de l'Allemagne. Donc on pourrait naturellement dire que c'est plutôt le beau temps qui m'a attirée ici. Mais ça va plus loin et je pense, en experte de couple franco-allemand, je peux dire que je vis cette évidence tous les jours parce que je suis mariée à un Français que j'ai rencontré il y a 22 ans aux États-Unis. Et ce que Kurt vient de dire est vrai parce que moi, je n'ai pas vécu, je suis née en 65, dans tout ce que Hans vient d'écrire, je le connais à travers les livres d'histoire. Mais le désir de créer des amitiés franco-allemandes, je l'ai vécu dès mon enfance parce que ma petite commune, elle avait un partenariat avec une commune en Bretagne et on faisait des échanges de jeunes à ce moment-là, même si à l'époque je n'aurais pas du tout imaginé que je vais un jour finir vivre en France. Mais à la fin, c'est l'amour pour mon mari. Bon, et ensuite pour ce pays qui m'a fait venir
ici. On a quand même bien choisi nos belettes. Hein, parce qu'on a une belette du nord, Hambourg, une belette du centre, en gros, et puis une belette du sud.
Sudiste de
l'Allemagne.
Alors ce que je retiens, c'est qu'en fin de compte, ils sont venus ici, tous trois. L'un par philosophie, l'autre pour convivialité. Et la troisième par amour.
C'est tout à fait ça.
Bon, jusque-là, tout va bien. On va voir si ça continue. Non. Moi, je voudrais vous demander, comment est-ce que vous vivez la campagne pour les présidentielles et législatives en France? Comment est-ce que vous vivez ça? Ça vous intéresse de près, de loin? Ça vous amuse? Ça vous attriste?
C'est amusant, c'est fascinant et c'est quelque chose que nous, on n'a pas. C'est-à-dire qu'une campagne électorale pour la présidence, ça se joue sur une année, chaque jour. Alors, ça c'est extraordinaire, là.
Parce que la langue française est riche, ce qui est
elle est riche.
C'est la différence de la langue allemande. En deux mots, c'est fini, c'est bâclé une discussion en allemand.
Oui, non mais aussi, il y a beaucoup de candidats, il y a beaucoup de partis, et puis il y a un président qui a un pouvoir, on peut dire presque absolu, que nous n'avons pas.
C'est la différence fondamentale qu'il y a entre les deux.
C'est la différence fondamentale. Oui. C'est les différences entre nos deux pays. Oui. On peut voir aussi autres différences. Et ça, mais ça, c'est très important. Il faut
c'est ça, on en reparlera, parce que même le chancelier ou la chancelière n'a pas de pouvoir exorbitant. Elle est quand même très contrôlée par le Parlement. Mais ça, on en reparlera
tout
à l'heure.
Contrôlée, on parlera après, si vous voulez. Oui,
oui, oui, parce que c'est une démocratie. Ce sont deux pays démocratiques. Ouais. Mais les deux démocraties, quand même, divergent sur des points importants.
Là encore, un mot important, actuellement ça se voit, c'est-à-dire, c'est pas le président, notre président élu, qui fait les choses, c'est actuellement la chancelière, elle est très forte, c'est elle qui décide si par exemple le président qui est en question là actuellement, s'il reste ou non.
Vous parlez de Sarkozy là?
Non, je parle du président.
J'ai eu une absence à un moment là.
J'ai compris.
Pour reprendre le sujet, il y a une différence constitutionnelle dans la mesure où l'Allemagne a bien un président, mais qui a une fonction plutôt représentative, comme la reine d'Angleterre en quelque sorte, et qui est élu par le Parlement, par les deux chambres du Parlement, en même temps. Donc il n'est pas élu au suffrage universel, ni même le chancelier ou la chancelière ne sont élus au suffrage universel, c'est les partis.
Et c'est si tu veux bien, on va reparler dans la deuxième partie. On va reparler de l'Allemagne.
Ce que je veux dire, c'est un peu comme chez nous, la statue de Marianne dans toutes les mairies.
On peut le dire comme ça. Voilà. Ou le statut du président de la République sous la 4e qui inaugurait les chrysanthèmes. Alors, mais j'ai une question aussi pour tous les trois. Bon, vous êtes certes, j'allais dire d'origine allemande, mais vous êtes devenu français, ne serait-ce que par le plébiscite de tous les jours que vous faites. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait vraiment plus que légitime que vous ayez le droit de vote en France ?
Ah, mais moi je l'ai. Parce que
par le mariage ?
Non, alors c'est un peu plus compliqué. Effectivement, le mariage m'a ouvert le droit de faire la demande de la nationalité française, mais il faut toutefois déposer un dossier. On peut le faire au bout de 4 ans de mariage. J'avoue aussi, j'avais pas envie de renier à mes racines allemandes, et la loi en Allemagne n'a changé qu'en 2008 pour permettre aux ressortissants allemands la double nationalité allemande. Et une fois que j'ai appris ce changement de législation en Allemagne, j'ai fait le pas de demander la nationalité française qui m'a été accordée.
Alors, du coup, il a fallu une démarche, une demande, mais est-ce que ce ne serait pas légitime qu'au niveau, ne serait-ce que des Européens...
Exact, les Européens.
Les Européens, qu'ils aient systématiquement le droit de vote à toutes les élections et aussi de se présenter, voire d'être élus.
Ça dépend des cas. Je pense qu'il faut nuancer un petit peu. On ne peut pas demander à tous les Européens, parce qu'ils sont Européens, de voter en France.
Par contre, je donne mon exemple.
Corte, ça fait plus de 40 ans qu'il vit ici. Moi, ça fait 30 ans qu'il vit ici. On paye nos impôts en France. On vit à Montpellier de façon fixe et je dirais presque définitive. Le centre de vie est ici. Donc, ce serait tout à fait normal de pouvoir voter au présidentiel aussi. En réalité, on vote au communal, c'est-à-dire au municipal, et on a droit de voter aux européennes en France.
Seulement pour dire, on pourrait demander maintenant la double nationalité. Oui. Mais est-ce qu'il faut, en tant qu'Européen vivant ici depuis des longues années, est-ce qu'à ce moment-là, on serait obligé de prendre la double nationalité?
Un Californien n'a pas besoin de demander la nationalité de Pennsylvanie pour avoir le droit de vote, Donc, effectivement,
le fédéralisme européen n'est pas encore mis en place politiquement. Oui, donc c'est pas concevable. Et puis, il y a une autre chose aussi, c'est que les Français, tu vas en prison si tu votes deux fois. Alors même si tu considères qu'effectivement, pourquoi il y aurait une, quelle que soit la nationalité d'ailleurs, que ce soit, pourquoi une personne qui aurait, entre guillemets, hérité d'une double nationalité aurait deux droits de vote alors qu'une autre personne n'en a qu'une.
Oui,
ça serait intéressant, par exemple.
T'as pas compris mon propos.
Si le fait de voter, par exemple, en France.
Parce que moi, mon but, c'est de savoir comment on va faire pour virer Merkel. Donc si on pouvait avoir le droit de vote
par
en
exemple,
Allemagne.
En Allemagne ou vice-versa. Parce que sinon, les citoyens, là, ne sont plus au même niveau.
Oui, ça peut mener à des situations, mais moi, je considère par une rigueur intellectuelle, on devrait se contenir à voter dans le pays où on vit de manière majoritairement, et où on a son centre de vie. Donc, après, prendre toutes les nationalités pour pouvoir voter dans tous les pays, à mon avis, ça n'a pas de sens.
Après, j'aurais une autre question là, pour tous les trois aussi. Selon vous, chacun d'entre vous, il est plus enviable de vivre en France ou en Allemagne ?
Moi, je ne ferais pas de différence. Moi, je pourrais ça vivre dépend. Aussi en Allemagne. Là. Franchement, il y a des... J'ai une très belle...
Allez passer un week-end, oui, comme non, tu fais depuis mais un moment. Mais allez y vivre vraiment ?
Vivre vraiment. Par exemple, là, dans mon Allemagne, mon paysage natif, là, le Jura Swabe, il fait bon vivre. Ben, je pourrais très bien imaginer de vivre là.
Tu pourrais encore vraiment y vivre, toi qui n'es jamais à l'heure ?
Oui, mais on s'habituerait là. On importerait des habitudes là. Non, mais, et puis, revenons, Berlin maintenant. Vous voyez combien, il y a 40 000 jeunes Français qui vivent maintenant à Berlin. Berlin est une ville fascinante parce que c'est une ville où il se fait encore quelque chose qui est pétillante là. Je dis, on peut très bien vivre.
Mais Sylvia, c'est pas le cas parce que quand même, entre Hambourg ou la France, le choix est vite fait quand même.
J'étais pas malheureux là-bas. Et là-bas, on dit il n'y a pas de mauvais temps, il y a juste des habits pas adéquats.
Alors, mais c'est quand même aussi bourré de luthériens. Quoi. C'est triste, c'est strict. C'est... Bon, que courte encore
c'est
avec son Autriche, Cato, etc. Bon, là, je comprends, mais.
Bienvenue chez les ch'tis, hein. On est vraiment dans une vision d'idées reçues qui est très forte. Non, c'est vrai que je prends l'exemple de la photovoltaïque, puisque mon fils a fait l'autre jour un stage en Allemagne, et j'ai appris qu'en photovoltaïque, l'Allemagne a 19 fois plus de capacité de production que la France. Or, l'Allemagne n'est pas connue pour le pays du soleil, et pourtant, ils investissent très fortement là-dedans. Donc, je disais, bienvenue chez les ch'tis, c'est un grand préjugé de dire qu'en Allemagne, il n'y a jamais le soleil. Il y a la qualité de vie aussi qui est énorme. Courte parler de Berlin. Moi, j'ai parlé l'autre jour de Berlin aussi, puisque j'y étais. Berlin et l'Allemagne, certainement, font partie des pays les moins chers en Europe. Oui. C'est devenu aujourd'hui un pays où les prix ont vachement baissé, où la qualité de vie, de toute façon, est pareil qu'en France.
Alors, justement, comment est-ce que vous décririez la situation de la France aujourd'hui ? Est-ce que vraiment on est en déclin ?
Je ne pense pas qu'on puisse dire en déclin. C'est-à-dire, je crois qu'il y a une grande responsabilité de la politique, des responsables politiques en général. Ce n'est pas en premier lieu les banques qui nous ont mené ça, mais c'est les politiques pendant des décennies. Ce n'est pas une question de parti. C'est-à-dire qu'on s'est endetté. Et là, je crois qu'on aurait dû déjà... mettre des verrous.
Enfin, au niveau de l'endettement, les choses sont claires. Dans le Marianne, l'hebdo de cette semaine, qui reprend un bouquin là, qui est sorti très récemment, sur les 600 et quelques milliards d'augmentation de la dette durant ces 5 dernières années, 500 milliards sont imputables à la politique de Sarkozy et seulement 109 milliards à la crise. Donc là, c'est ce gouvernement qui, visiblement, a horriblement mal géré le budget de la France. Donc là, il n'y a pas besoin de remonter à 20 ans, 30 ans ou 40 ans en arrière. La dette de la France était anecdotique auparavant. Quoi.
Oui, mais elle y était déjà. Aussi, dans les années 80, il y avait déjà des dettes. Alors, c'est pas tout à fait... Moi, je ne suis pas économiste, mais j'ai lu récemment, il y avait déjà l'endettement, d'ailleurs aussi en Allemagne, mais un peu moins, parce que l'Allemagne s'est actuellement équilibrée par les excès d'exportation.
Mais il y a peut-être une petite explication par rapport à cette différence entre l'Allemagne et la France. En dehors, disons, de l'aggravement de la dette sur ces 5 dernières années, là. C'est vrai que la France a toujours eu un endettement supérieur, mais c'est parce que la France a toujours misé sur une croissance basée sur la consommation. Beaucoup plus que l'Allemagne. Et donc, effectivement, avec des pouvoirs, des services publics, et donc, effectivement, il y avait toujours un taux d'endettement Enfin, disons que dans la mesure où c'était un endettement considéré comme raisonnable, il était assimilé comme... Enfin, c'était normal, en quelque sorte. Voilà, c'est un petit peu comme le ménage qui fonctionne toujours, avec un niveau d'endettement, mais dans la mesure où il ne dépasse pas une certaine somme, ça tourne.
J'ai une vraie question là, pour tous les trois. Là. Quel conseil vous pourriez donner à nos dirigeants français pour mieux appréhender les Allemands, pour mieux gérer les relations, notamment avec le gouvernement allemand? Sarkozy s'y est pris horriblement mal avec Angela Merkel dans un premier temps. Visiblement, il semble que ça aille un tout petit peu mieux parce qu'il retourne sa veste tous les 5 minutes. Bon. Mais comment faire pour... Parce que c'est pas facile à gérer, ça, ces relations entre deux pays tels que la France et l'Allemagne, des mentalités complètement différentes. Comment faire ?
Des mentalités complètement différentes. Quand on regarde la France et l'Allemagne à partir de l'Australie, à partir de la Thaïlande, à partir de la Chine, c'est deux pays qui sont extrêmement proches, une qualité de vie extrêmement proche, un endettement aussi très proche. Quand on regarde défiler le couple franco-allemand au niveau de ses têtes, au niveau de Gaulle, Adenauer, Kohl, Schmitt, etc., et Giscard d'Estaing et Mitterrand et Kohl, par exemple, les couples, il y a toujours eu des couacs au début de chaque mandat, à l'investiture d'un nouveau président et d'un nouveau chancelier. Mais depuis qu'il existe le fameux traité de l'Élysée, qui est le traité de l'amitié franco-allemande de 1963, il existe des rencontres très régulières et institutionnalisées entre les gouvernements, pas seulement au niveau des chefs de l'État, mais au niveau des ministères, au niveau des fonctionnaires, au niveau de tous les partenaires. Il existe plus de 2000 jumelages, plus de 200 000 rencontres entre jeunes Français en Allemagne qui ont lieu chaque année. C'est énorme, l'interpénétration entre nos deux pays, entre nos deux cultures, entre les citoyens, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient vieux, qu'ils soient politiques, que ce soit les partenaires sociaux, est telle que même en cas de changement de présidence, en changement de tête politique, les institutions, les rapports ne changent pas profondément.
Bon, attention, je crois que la technique veut intervenir en la personne de Gilles Gouget. Gilles, à toi.
Oui, j'avais obligation de réagir. J'ai vécu 3 ans et demi dans le nord de l'Allemagne, à Kiel, entre 90 et 93. Et c'est vrai qu'à l'époque, il semblait quand même, quand on avait une vingtaine d'années, beaucoup plus simple de gagner sa vie, y compris fiscalement avec le Fund von der Basis, etc. Il y avait quand même beaucoup... Enfin voilà, moi j'ai bien vécu pendant 3 ans et demi. C'était facile de trouver du taf, pas nécessairement pour faire carrière, etc. Mais si on voulait travailler, c'était facile de trouver du boulot, de gagner des sous. Et à cet âge-là, c'est toujours agréable de gagner 4 fois ce qu'on gagnait en France, alors que de retour à Montpellier en 93, il n'y avait même pas ça pour bosser à Montpellier, quoi. Sinon il fallait aller se prostituer chez McDonald's ou des conneries de cet acabit. Mais dans la restauration, on ne vous prend pas parce qu'on a une idée tellement haute de la restauration en France et à Montpellier, que même quand on fait de la semi-gastronomie, on prend soi-disant personne si vous n'avez pas votre CAP, etc. Donc j'ai trouvé que finalement le tissu pour trouver des boulots et tout ça, c'est, les gens étaient... Alors j'avais peut-être l'exotisme du français qui est en Allemagne et vis-à-vis duquel les gens sont peut-être plus spontanément ouverts, etc. Mais en tout cas, nul n'est prophète en son pays. J'en ai fait le bilan de retour à Montpellier. Et c'est vrai qu'il y a aussi un truc qui m'a frappé, c'est qu'autour de Montpellier, à cette époque-là, il y avait 14 hypermarchés. 14, et c'est des villes à population équivalente, hein, Kiel et Montpellier, alors qu'à Kiel, il y avait un métro pour toute la ville, et sinon, il y avait des supérettes et des mini-supermarchés partout en ville, et la vie n'était pas plus chère, quoi, y compris en termes de gestion des déchets, etc. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était cool de vivre en Allemagne, que les Allemands étaient sur bien des points, on va dire, plus meilleurs gestionnaires et plus civilisés que les Français. Donc, moi qui n'avais pas spécialement d'a priori, mais c'est vrai que j'avais pas appris l'allemand à l'école parce que je trouvais ça un peu rébarbatif. Mais c'était qu'un a priori. Quoi.
D'habitude, tu dis barbare. Et justement, j'ai une question, notamment pour Sylvia. Certains économistes parlent à propos de la France et de l'Allemagne de jumeaux. Est-ce que vous en...
Oui, c'est vous êtes d'accord avec... dans le sens que, par exemple, quand on voit l'évolution du PIB, elle est sensiblement... elle suit la même courbe. Les deux pays sont quand même les puissances économiques à la 4e, 5e place au niveau mondial. Et ils pèsent aussi très lourd à l'intérieur de la communauté européenne. Donc, il est quelque part logique qu'on peut parler d'un couple franco-allemand. D'ailleurs, il y a aussi ce nouveau nom Merkozy qui s'est un peu établi un peu partout dans les médias. Et il paraît même que M. Sarkozy a dit récemment qu'il voit Mme Merkel en ce moment plus souvent que sa propre femme. Mais je voudrais rebondir un peu sur ce que vient de dire notre collègue. Effectivement, peut-être il y a 20 ans, il était plus simple de trouver du travail en Allemagne qu'en France. Aujourd'hui encore, le taux de chômage est bien plus faible en Allemagne qu'ici. Par contre, le taux de temps partiel des personnes qui travaillent en Allemagne est bien, bien plus élevé. Et moi, je trouve ça en fait assez cool de pouvoir travailler en France. Parce que je suis une femme. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des enfants et jamais j'ai eu un problème de trouver un moyen de garde pour mes petits. Or, je savais très bien, si j'allais rester en Allemagne, j'aurais très difficilement pu faire la même carrière professionnelle que j'ai fait ici en France. Parce que tous ces modes de garde commencent à évoluer tout doucement. Mais c'est encore difficile pour beaucoup de femmes de passer un temps partiel à partir du moment où ils ont des enfants à charge.
Ah, pour terminer notre première discussion à propos de la France et puis des Français, est-ce que vous ne pensez pas que le problème de la langue est un mur pratiquement infranchissable ? Beaucoup d'Allemands parlent français, oui. Très peu de Français parlent allemand. Est-ce que ça, ce n'est pas un véritable problème ?
Vous savez comment nous... avec notre institution, Maison de Heidelberg, on s'en occupe pour promouvoir la langue allemande parce que c'est important que qu'on apprenne la langue du voisin. On ne veut pas dire que tous les élèves doivent apprendre l'allemand.
Qu'on l'apprenne, ça, je conçois bien, mais qu'on la comprenne. Comment un Français peut-il comprendre l'allemand ? C'est pas possible.
Pourquoi ? Parce que c'est
deux sphères mentales différentes. Faut avoir un cerveau différent.
Mais pour l'allemand, il doit apprendre le français aussi.
Un sens.
Oui.
Chez nous, un mot a 12 000 sens. Nous, on peut débattre pendant des heures, des jours et des mois sur un mot. En allemand, c'est pas possible. C'est très carré.
Il y a aussi des mots qui ont plusieurs significations, là. Je vous assure, là. C'est une question sérieuse.
On voit que tu n'as pas de notion d'allemand, en fait.
Oui, mais la question, vraiment, c'est une question très importante. Parce que c'est là où il faut... une volonté aussi politique. Il faut aussi une volonté politique. Il faut dire, voilà, on fait du côté éducation nationale un vrai effort pour soutenir l'allemand. Nous, on fait des efforts. Mais s'il n'y a pas des structures dans les écoles, si, par exemple, un directeur d'école lui dit « je veux l'allemand, je ne veux pas ».
Il y a des principaux de collège qui refusent.
Il y en a.
Dans leur collège.
Ça existe. Oui. Il y a d'autres qui voudraient le faire, mais où il y a aussi des problèmes administratifs. Là. Alors c'est là où la politique, parce que c'était dans le traité de Gaulle-Adenauer, le traité important, là, il faut absolument faire tout pour soutenir la langue du voisin. Et c'est pourquoi beaucoup d'entreprises françaises ont des difficultés d'exporter.
Loin des télés, des animateurs blaireaux, tous ces crétins dégénérés, fringués, coiffés comme des proxos. Loin des journaux et des radios, des interviews conformistes par des zombies mongolitos, un peu nas, souvent fumistes. Loin des questions parfois obscènes, ridicules ou bien vicelardes, des nulos de la bande FM, roi de la musique ringarde. pour vivre heureux, je vis caché au fond de mon bistrot peinard, dans la lumière tamisée, loin de ce monde de bavard. Pour vivre heureux, je vis caché au fond de mon bistrot peinard, dans la lumière tamisée, loin de ce monde de bavard. Loin des bois, des fêtes branchées, de la jet set et du showbiz, des pétasses cocaïnées, des pélâtres à la dérive. Loin des premières où tout Paris a posé sans aucun scrupule, pour quelques pauvres paparazzi qui aiment mitrailler les nuls. Loin des cocktails, dîners, des mondanités imbéciles, entre starlettes d'un seul été au cuir frisant le débile. Je vis caché au fond de mon bistrot peinard, avec mes potes des vrais de vrais, loin de ce monde de fêtards. Pour vivre heureux, je vis caché au fond de mon bistrot peinard, avec mes potes des vrais de vrais, loin de ce monde de fêtards.